Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous abordons maintenant la troisième partie de notre étude sur l'Église, à savoir la hiérarchie de l'Église. Je vous redonne ci-dessous le plan général de toute notre étude. Nous avons vu dans une première partie que l'Église est une société, qui dit société dit amitié. L'Église, c'est les amis de Dieu par Jésus-Christ et par la croix, donc les amis de Jésus-Christ ou les amis du Christ crucifié, comme vous voulez. Nous avons vu dans une deuxième partie que le Christ sanctifie son Église, essentiellement par le Saint-Esprit qui est son esprit. C'est très important cela, parce que c'est ce qui nous montre que l'Église est spirituelle, qu'elle n'est pas une collection matérielle d'individus. Nous avons vu les canaux des dons de Dieu, les canaux par lesquels Jésus-Christ passe pour sanctifier l'Église. Il y a notamment la Très Sainte Vierge, mais également les sacrements, la prière, le sacrifice, bien entendu, le sacrifice de Jésus-Christ. Et avec tout cela, nous avons vu dans cette deuxième partie l'activité de l'Église, honorer, louer, servir Dieu, tout cela sous l'influence du Saint-Esprit. Nous ne développerons pas ici la place de la Très Sainte Vierge dans l'Église. Il suffit de se reporter à tous les sermons que j'ai faits sur la Très Sainte Vierge, non plus que les sacrements, puisque j'en ai traité dans toute une série de sermons. Et il est temps maintenant que nous abordions l'étude de la hiérarchie de l'Église, puisque le Christ a donné des pouvoirs, a donné ses pouvoirs à tous les apôtres, lorsqu'il leur a dit « Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer ce que je vous ai commandé ou confié. » Et puis, bien sûr, notre Seigneur s'est adressé à l'Église à travers Saint-Pierre, lorsqu'il lui a dit « Je te remettrai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Parole qu'il répétera aux apôtres tous ensemble réunis. Donc, double raison d'étudier la hiérarchie de l'Église. La première, parce que le Christ l'a voulu ainsi, et il est très important pour être fidèle à Jésus-Christ, que nous connaissions ce qu'il a fait, de manière à pouvoir être fidèle à son intention. Deuxième raison, qui est propre à notre époque, c'est que sous des influences diverses dont je vous parlerai plus tard, il y a eu une subversion qui a exagéré, et même plus qu'exagéré, qui a complètement déformé la fonction du pape dans l'Église, de même la fonction des évêques. Donc il est grand temps de remettre cela en ordre, justement pour être fidèle à ce que notre Seigneur a confié à la hiérarchie et qu'il a confié pour nous. Je vais commencer par vous donner un résumé de la vérité sur ces questions, et puis après cela je vous expliquerai, c'est-à-dire que je déploierai cette doctrine comme on déplie un drapeau, et bien entendu je vous donnerai toutes les preuves que l'on peut trouver dans le magistère de l'Église, car je ne suis qu'un répétiteur. Le résumé, c'est celui-ci, on le trouve dans saint Augustin. Saint Pierre, lorsqu'il reçoit les clés, représente l'Église. C'est à l'Église que le Christ a remis ses trésors de foi, de grâce et de vertu. Et non à Saint-Pierre en personne. Et saint Thomas d'Aquin précise, tout prélat, donc un prélat c'est principalement les évêques et le pape à leur tête, bien entendu, qui est un prélat aussi, tout prélat est un intendant et non un maître. Cela se constate dans la mission donnée aux apôtres, Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai confié. » On voit bien que notre Seigneur confie aux apôtres une charge d'intendant et il n'en fait pas des maîtres et encore moins des propriétaires. Et nous verrons que la fonction du pape n'est pas de remplacer les évêques, mais de maintenir l'unité. C'est une fonction très précise, limitée, qui est de conserver l'unité. Ça, c'est très clair dans l'enseignement de l'Église. Je vais vous donner un exemple, ou plutôt deux exemples, pour bien comprendre cela. Supposons un homme qui, supposons, se dévoue auprès des victimes de la guerre dans son village. Je prends cet exemple. Son père admire le dévouement de son fils et il lui remet son héritage en lui disant « Tu es mon fils bien-aimé, voici mon héritage qui te permettra de développer ton œuvre et de secourir les victimes de la guerre. » Le fils devient maître de l'héritage. Il est tenu de bien le gérer parce que personne ici-bas n'est totalement maître. Tout le monde est tout de même quand même un petit peu intendant. Mais enfin, au regard de la loi, il est le maître. C'est à lui qu'appartient l'héritage et les pauvres ne peuvent pas lui demander de compte. Maintenant, prenons un autre exemple. Un homme remet au président d'une association de secours aux victimes de la guerre du village une forte somme pour le bien des dites victimes. Le président n'est alors pas le propriétaire de ce qui lui a été remis, il n'est que le gérant et on peut lui demander des comptes. Eh bien, appliquons cela à l'Église et à sa hiérarchie. Allez enseigner toutes les nations, c'est le premier trésor. Jésus-Christ remet trois trésors aux apôtres pour le bien de l'Église. Premièrement, l'enseignement de la foi qui doit être enseignée. Deuxièmement, les sacrements qui transmettent la grâce. Et troisièmement, la morale. Commençons dans le sermon d'aujourd'hui par la foi. Que le Christ veut-il ? Il veut que le peuple chrétien ait la foi. Ça, c'est une évidence. Il veut que le peuple chrétien ait la foi de façon certaine, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas, et il veut qu'il ait la foi de façon infaillible. Oui, oui, je sais, je ne me trompe pas, que le peuple ait la foi de façon infaillible, c'est-à-dire que le peuple comprenne bien à travers l'enseignement des apôtres, ce que le Christ a enseigné, que le peuple adhère à la vérité de Jésus-Christ, « Je suis la voie, la vérité, la vie », c'est à lui que le peuple chrétien doit adhérer. En théologie, on appelle ça l'infaillibilité du peuple chrétien dans la croyance, « in credendo ». D'habitude, je ne vous donne pas trop les termes latins parce que vous n'en avez pas besoin, mais là, c'est quelque chose, surtout si des prêtres m'écoutent, qui correspond à un enseignement qu'ils connaissent bien, qu'ils ont reçu tous au séminaire, l'infaillibilité in credendo, c'est-à-dire l'infaillibilité dans la croyance, l'infaillibilité du peuple chrétien dans sa croyance. D'habitude, on n'en parle pas aux fidèles, pour deux raisons. La première, c'est ce que je vous disais, qu'on a tellement exagéré l'importance de la hiérarchie et du pape qu'il y a un certain mépris pour le peuple fidèle, cela ne vous regarde pas, écoutez ce que l'on vous dit, croyez ce que l'on vous dit, et puis taisez-vous pour le reste. Ce n'est pas normal, parce que il y a une dignité des fils de Dieu, il ne faut quand même pas oublier que le chrétien devient fils de Dieu, race royale, peuple saint, peuple de prêtre, hein, Saint-Pierre. Race royale, on ne peut pas traiter une race royale avec mépris. L'autre raison pour laquelle on vous parle très peu de l'infaillibilité du peuple chrétien dans la croyance, c'est que les modernistes se sont saisis de cette affirmation, infaillible in credendo, pour faire accepter le protestantisme et le modernisme, à savoir que la foi est une création du peuple chrétien. Lorsque, à cause de la controverse sur l'impossibilité pour les femmes de devenir prêtres, Jean-Paul II a dû intervenir, il a donné un enseignement infaillible et il a pris soin de marquer son enseignement des marques de l'infaillibilité. Mais voilà, il l'a fait à la manière moderniste, ce qui fait qu'il y avait une ambiguïté. Alors des évêques ont écrit à Rome pour que l'ambiguïté soit levée. Et le cardinal Ratzinger, le futur Benoît XVI, le cardinal Ratzinger a répondu qu'il n'y avait pas d'ambiguïté, que le pape avait déclaré que le sentiment chrétien était infaillible sur cette question, et que l'Église ne s'estimait pas le droit de changer cela. Vous voyez, l'Église ne s'estimait pas le droit de changer ce qui est le fruit qui sort de la conscience chrétienne, de la conscience au sens moderne. Voilà pourquoi il est normal d'insister sur l'infaillibilité de l'Église et l'infaillibilité de l'enseignement de l'Église, et puis le peuple chrétien n'a plus qu'à se caler sur cette infaillibilité, et à ce moment-là, évidemment, sa croyance est infaillible. C'est vrai cela. Seulement, rappelez-vous bien que ce qui est premier dans la réalisation, à savoir l'enseignement infaillible des apôtres, et ce qui est dernier dans la réalisation, c'est-à-dire l'adhésion du peuple chrétien à la foi en Jésus-Christ, ça c'est dans la réalisation, c'est l'inverse dans l'intention du Christ. Ce que le Christ vise en premier, c'est la croyance du peuple chrétien de façon certaine et infaillible. Et il prend un moyen qui est l'infaillibilité de l'enseignement de l'Église. C'est l'infaillibilité in docendo. In docendo, ça veut dire dans l'enseignement. On voit bien par là que la hiérarchie enseignante de l'Église, l'Église enseignante, est dépositaire d'un trésor qui ne lui appartient pas, mais qui appartient au peuple chrétien. Une conséquence de cela, c'est que le peuple chrétien peut demander des comptes. Le code de droit canonique, le peuple chrétien a droit, voyez, a droit au secours de la hiérarchie, principalement quand il s'agit de la foi et des sacrements. Le peuple chrétien peut demander des comptes, enseignement de Don Guéranger, à propos de l'hérésie de Nestorius, puisque c'est un simple clerc, un séminariste si vous voulez, qui s'est opposé au patriarche de Constantinople, c'est quand même pas rien le patriarche de Constantinople, et qui lui a publiquement, dans la basilique Sainte-Sophie, reprocher son hérésie, lui, simple séminariste. Et Don Guéranger dit, il est des vérités essentielles dont tout chrétien a, du fait de son baptême, la connaissance nécessaire et la garde obligée. Connaissance nécessaire à cause de l'infaillibilité in credendo, l'infaillibilité dans la croyance. Et la garde obligée, c'est-à-dire qu'il doit les garder, les protéger, voire même les défendre, du fait que c'est le patrimoine commun de l'Église, un patrimoine qui n'appartient pas aux individus particuliers, mais à toute l'Église, et donc à tous les fidèles, et par conséquent, Don Guéranger continue en disant, quand ces vérités sont attaquées, il n'y a pas besoin de l'autorisation ni de l'intervention de la hiérarchie pour les défendre. Lorsque Don Guéranger écrivit cela, personne ne le dénonça à Rome pour avoir professé une erreur. Au contraire. Il nous faut voir maintenant, rapidement, où se trouve l'enseignement de l'Église. Je vous ai dit que le Christ veut que le peuple fidèle ait la foi de façon infaillible. Pour ça, il faut que le peuple fidèle soit enseigné. Où se trouve cet enseignement ? Le Concile Vatican I a défini les choses, parce que justement il y en avait besoin, et il dit cet enseignement se trouve tout d'abord dans le magistère ordinaire universel des évêques. Pourquoi ordinaire ? Parce que c'est le magistère de tous les jours. Magistère, ça veut dire enseignement, hein, c'est pareil. Magistère, enseignement. Donc, ce qui est infaillible, c'est l'enseignement ordinaire des évêques, pourvu qu'il soit unanime, universel ou unanime, c'est pareil. Lorsque tous les évêques dans le monde entier, et à toutes les époques, enseignent la même chose, eh bien, le peuple fidèle est sûr et certain d'avoir l'enseignement de l'Église. C'est le canon, canon ça veut dire la règle, de Saint Vincent de Lérin, qui justement étudie notre question et qui s'adresse au peuple fidèle en disant « Où trouverez-vous avec certitude, lorsqu'il y a des hérésies, des choses comme cela, où trouverez-vous avec certitude l'enseignement de Jésus-Christ ?» Et il répond « Quod semper ubique ab omnibus traditum est ?» Formule latine qui est connue. Ce qui a été transmis toujours, partout et par tous. Vous voyez, l'Église est en parfaite et pleine et paisible possession de ce qui a été transmis partout, par tous et toujours. Lorsqu'une hérésie survient, sa nouveauté, son caractère non universel, prouve que c'est une erreur. C'est très simple. C'est le grand critère de Mgr Lefebvre. Hein. On ne peut pas aller contre toute la tradition de l'Église. Et le pape, quelle est sa fonction alors, me demanderez-vous? Le pape maintient l'unité. Il agit lorsqu'un doute ou une contestation surgit entre les évêques, lorsqu'il y a une difficulté sur l'unité, que les évêques ne sont pas d'accord pour l'enseignement, ou que justement quelqu'un vient semer le trouble dans cette possession paisible, lorsqu'il faut rétablir la certitude et donc l'unité, alors le pape intervient et doit intervenir. Cela, je vous le développerai lorsque nous ferons un sermon sur le pape, un sermon exclusivement consacré au pape, à la fonction du pape. Le Concile Vatican I répète à l'envi que le pape est principe d'unité, qu'il ne remplace pas les évêques, qu'il est là pour maintenir l'unité et qu'il n'a pas le pouvoir de changer quoi que ce soit à la tradition de l'Église. Quelques textes du magistère pour terminer. Je ne peux pas tout vous lire parce que la lecture orale est difficile à suivre. Donc je vous invite à vous reporter aux textes écrits que je vous donne sur ce site après l'enregistrement audio du sermon. Saint Augustin, à cause de la primauté de son apostolat, l'apôtre Pierre personnifiait cette Église dans la généralité qu'il figurait. Considéré en lui-même, par nature, il était un homme unique. Par grâce, il était un chrétien unique. Par une grâce plus abondante, il était cet apôtre unique et en même temps le premier des apôtres. Mais quand le Christ lui dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux », Saint-Pierre signifiait l'Église universelle. Vous voyez, le pouvoir n'a pas été remis à Saint-Pierre en tant qu'individu, mais il lui a été confié, il a été donné à l'Église universelle et confié à Saint-Pierre. Comme dans mon deuxième exemple précédemment, la somme d'argent a été donnée à l'association de secours aux victimes de la guerre de ce village et confiée au président. Saint Augustin toujours, et je vous rappelle que les grands docteurs de l'Église, l'autorité d'un seul suffit pour établir la vérité. Quand Saint Augustin parle de façon si nette, et il le répète partout, hein, j'ai fait une recherche sur « Je te donnerai les clés du royaume des cieux », le Saint Augustin en parle souvent et à chaque fois il dit la même chose. Voici donc un nouvel extrait. Pour vous convaincre que ce fut l'Église qui reçut les clés du royaume des cieux, écoutez ce que le Seigneur, dans une autre circonstance, dit à tous les apôtres. Recevez le Saint-Esprit. Il ajoute aussitôt, les péchés seront remis à qui vous les remettrez, retenus à qui vous les retiendrez. C'est ce que désignent les clés, qui rappelle ces mots, ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel, etc. Donc, pour vous convaincre que ce fut l'Église qui reçut les clés du royaume des cieux, écoutez, etc. Et puis pour rappeler que le pape Saint-Pierre en tout premier et le pape n'est qu'un intendant et non pas le propriétaire ni même le maître de ce qui lui est remis par Jésus-Christ, le Concile Vatican I précède sa définition de cette affirmation très importante. Le Saint-Esprit n'a pas été promis au successeur de Pierre pour qu'il fasse connaître une nouvelle doctrine, mais qu'avec son assistance, il garde saintement et expose fidèlement la révélation transmise par les apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. Le Concile continue, afin qu'ils remplissent leur haute charge pour le salut de tous, et pour, c'est-à-dire le but. C'est ça que Jésus-Christ vise, le salut de tous. Et dans la définition de l'infaillibilité, le Concile enseigne que le pape n'a pas une infaillibilité propre, mais qu'il jouit de l'infaillibilité que le Christ a donnée à son Église. Je vous développerai tout cela une prochaine fois. Notre-Dame, gardienne de la foi, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.